Donc dans ce dimanche de Pentecôte, eh bien, la liturgie nous donne de vivre et de revivre cet instant magnifique où l'Esprit-Saint est envoyé dans le monde. Et nous avons donc les apôtres réunis qui, bien sûr, ont vu le Christ ressuscité, le Christ qui leur est apparu plusieurs fois, qui leur a parlé, qui les a enseignés avec une nouvelle dimension, mais les apôtres restent peu rassurés. Et surtout, ce qui est très frappant dans tout ce que l'on peut lire sur cette période après la résurrection, c'est que les apôtres ne comprennent pas. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Depuis le début, depuis leur appel avec Jésus, ils sentent qu'ils veulent suivre cet homme. Ils sentent que dans ses paroles, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose d'important. Ça résonne en eux, ça vibre en eux, mais ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, lorsque de nombreuses personnes très mécontentes de ce que le Christ leur a dit, s'en vont, le Christ pose la question à ses apôtres, il leur dit « Et vous, vous ne partez pas ?» Et Pierre répond « Seigneur, où voulez-vous que nous allions ? C'est vous qui avez la vérité. » C'est une parole d'inspiration, mais ils n'ont pas toutes les clés en main. Et surtout, on voit bien qu'ils restent, même après cette période, encore un peu craintifs et enfermés dans cette pièce. Et ce qui va se passer, c'est une expérience unique. C'est raconté avec un souffle qui est pareil à un ouragan. L'image de l'ouragan, elle est importante. Vous voyez ces images de tornades, d'ouragans, où toutes les choses sont aspirées vers le ciel. Eh bien, les apôtres, c'est exactement ce qui va leur arriver. Ils sont comme aspirés vers le ciel par ce souffle identique à celui d'un ouragan. Et puis, il y a ces images des langues de feu qui se séparent et qui viennent se poser sur eux. Ceci nous décrit une expérience spirituelle, une expérience mystique, où ils sont mis en présence de la force de l'Esprit-Saint. Mis en présence de ce feu de l'amour, de ce feu de la connaissance. Et quand nous disons la connaissance, eh bien c'est dans le sens où Marie disait à l'ange qui est venu la visiter, je n'ai pas connu d'homme. C'est dans le sens d'une union, dans le sens d'une intimité avec Dieu. Et tout ceci conduit à une transformation. Une transformation fondamentale, radicale, une assurance. Les apôtres, d'ailleurs, suite à cela, sortent dans la rue et se mettent à parler. Et ce qui frappe les gens, c'est que chacun le comprend, chacun entend ses paroles. La dernière phrase de l'épître est très importante. Elle dit « Et voilà que tous, nous les entendons célébrer dans notre propre langue les merveilles de Dieu. » Ce n'est pas que d'un seul coup, les apôtres se sont mis à parler d'autres langues pour vendre du fromage ou du poisson ou expliquer telle ou telle chose. Pas pour faire du commerce, parce que toutes les personnes qui étaient là, elles étaient là souvent pour faire du commerce. Ils parlent une autre langue et tout le monde la comprend, l'humanité tout entière la comprend. Pourquoi ? Parce que c'est pour transmettre les merveilles de Dieu. C'est pour donner la possibilité à chacun de recevoir en partage cette présence de Dieu, cette dimension spirituelle qui fait que les textes, les écritures, la loi que l'on a eue, je parle pour les personnes de cette époque, eh bien d'un seul coup, elle prend une autre dimension. Elle est élevée par cette présence de l'Esprit-Saint. Elle est élevée à une compréhension universelle. C'est-à-dire, d'un seul coup, les mots, les pensées sont dépassés et on a l'impression d'être en communion, en fusion avec cette réalité. Voilà ce qui est proposé, voilà ce qui est exprimé dans cette Pentecôte, dans cette venue de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous a été donné. Au départ, nous avons le Père, créateur de tout l'univers. Nous avons les prophètes qui annoncent sa parole. Et puis, nous avons le Christ qui vient. Le Christ qui vient dans le monde et qui parle et qui enseigne. Mais peu de gens comprennent. Et puis, nous avons la passion, la mort, la résurrection, puis l'ascension de Jésus-Christ. Et Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas seul et j'enverrai dans le monde une nouvelle force, une nouvelle présence. » Et c'est cette présence de l'Esprit-Saint. Et cette présence, elle est extrêmement importante parce que c'est encore elle aujourd'hui qui agit dans le monde. Et c'est avec cette présence de l'Esprit-Saint que nous pouvons, nous aussi, agir, nous mettre en contact, entrer dans ce souffle et entrer dans cette présence. Alors, on est donc dans ces dons de l'Esprit-Saint qui nous sont transmis, et la tradition chrétienne s'appuie sur le texte d'Isaïe qui avait dit que ces dons seraient transmis, dons de sagesse, dons d'intelligence, de conseil, de force, de science, dons de piété, et le dernier qui est souvent le plus méconnu, le plus difficile à appréhender, le don de la crainte de Dieu. Alors, ne voyez surtout pas un Dieu méchant avec un grand bâton qui va taper sur la tête des hommes chaque fois que les choses vont un peu de travers. Il devrait taper souvent. Et cette dimension de la crainte de Dieu, il ne faut surtout pas la voir comme quelque chose qui serait une peur ancrée en nous. La dimension, le don de la crainte de Dieu, elle se rattache à une phrase de la messe qui dit « Et ne permet pas que nous soyons jamais séparés de toi ». C'est-à-dire que quand nous avons rencontré le Seigneur, quand nous avons été en présence de cette dimension divine et céleste, notre seule crainte, c'est d'en être séparé. C'est, une fois que nous y avons goûté, de ne plus pouvoir retrouver cette dimension-là. Le don de la crainte de Dieu, c'est le don d'être toujours dans sa quête, d'être toujours dans cette recherche et d'avoir les capacités pour que notre action, pour que notre vie ne soit pas une séparation d'avec le Père. Et puis donc, l'Esprit-Saint, eh bien, il se manifeste en nous à travers ses charismes. Ils sont forcément différents pour chacun, mais ils nous permettent à chacun d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Et ce qui est important, c'est d'être capable de s'ouvrir à cette présence, d'être capable de se rendre disponible à cela. Et avec cette force, en recevant cette dimension de l'Esprit en nous, en nos cœurs, au plus profond de ce que nous sommes, eh bien, nous serons capables d'accomplir le meilleur de nous-mêmes, d'aller vers l'accomplissement de ce que nous portons au plus profond de nous, d'être véritablement ce que nous sommes. Et bien pour cela, voilà, il faut laisser l'Esprit-Saint agir. Les forces des ténèbres, les forces du mal, elles ne demandent jamais notre avis. Elles agissent toujours contre nous et elles forcent et elles bloquent le passage. Et elles y vont. Les forces de l'Esprit-Saint, elles ne sont pas dans cette dimension. Les forces de l'Esprit-Saint, elles laissent l'homme libre. Nous sommes dans la sainte liberté des enfants de Dieu. Voilà une autre parole de la messe. Eh bien, cette liberté, elle nous impose, pour que les dons de l'Esprit-Saint agissent en nous, de lui dire « Venez, Esprit-Saint ». La petite prière prononcée tout à l'heure, « Viens, Esprit-Saint ». Eh bien, ça, c'est la parole que nous devons prononcer. Ça, c'est la prière de nos jours, aujourd'hui et des jours qui viennent, pour que nous puissions, nous aussi, le laisser agir en nous. Une des difficultés de l'Esprit-Saint, c'est que à travers ses dons, nous en avons une certaine vision. Et nous pensons que, je pense notamment aux intentions, que nous avons besoin de telle ou telle chose. Et quand je dis « Viens, Esprit-Saint », l'Esprit-Saint, il vient, mais il ne vient pas forcément où on l'attend. L'Esprit souffle où il veut. L'Esprit-Saint, il va peut-être agir sur une autre dimension. Et donc, cet acquiescement à l'Esprit, elle est essentielle pour qu'il puisse agir. Pour que cette présence, elle puisse vivre en nous. Et alors, pour les apôtres, cette présence, elle est instantanée. Alors, je peux vous dire qu'il y a quelques personnes qui vivent effectivement ce saisissement de l'âme et qui sont touchées au plus profond d'elles-mêmes, voilà, directement, d'un seul coup. Pour les apôtres, pour la plupart des gens, c'est souvent un processus beaucoup plus long de maturation. Et c'est en ce sens-là que la liturgie et l'accompagnement de l'Église aident. C'est pour mettre en place cela. Parce que les sacrements, la liturgie, année après année, cycle après cycle, va construire cette présence à l'Esprit-Saint. Et c'est une œuvre de naissance à la dimension divine. Il y a souvent des paroles dans la messe qui disent, ou dans les évangiles qui disent, nous sommes comme dans une phase d'enfantement. Eh bien, c'est exactement ça avec l'Esprit-Saint. Nous sommes dans une dimension où l'Esprit-Saint prend corps avec nous. C'est une œuvre de naissance à la dimension divine. Et dans cet Esprit-Saint, eh bien, il nous est dit autre chose d'important dans l'Évangile. C'est que... Donc, je reprends. Le Christ dit « D'ailleurs, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Tant que j'étais avec vous, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. » Entre parenthèses, vous n'avez pas beaucoup compris, voilà. « Mais l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Ça, c'est la phrase importante. « Il vous fera retrouver tout ce que je vous ai dit moi-même. » Ça, c'est fondamental pour comprendre comment lire les Écritures. Il faut lire les Écritures, non pas selon la lettre, mais il faut les lire selon l'Esprit. C'est-à-dire se placer dans cette dimension de l'Esprit, demander à l'Esprit de nous éclairer, ce qui est encore une fois la parole de la liturgie avant de lire l'Évangile, de nous éclairer pour nous apporter le sens, pour nous apporter cette dimension de communion qui va dépasser simplement nos limites humaines et qui va nous élever sur le plan céleste. Toutes ces écritures, à ce moment-là, lorsqu'elles sont lues dans l'esprit, elles deviennent vivantes. Elles ne sont pas des mots mis les uns à côté des autres, mais elles deviennent quelque chose de vivant. Et le Christ a dit « Je suis le vivant ». C'est donc dans l'Écriture, dans cette lecture par l'Esprit, que nous allons pouvoir retrouver le Seigneur. C'est avec cela. Si nous le lisons par nous-mêmes, si nous faisons simplement une lecture historique ou une lecture critique, nous n'allons pas en décrypter le sens. Nous n'allons pas le ressentir, ce sens intérieur. Donc c'est pour cela qu'il faut vouloir et demander cette phrase « Viens, Esprit de Dieu, et fais jaillir des cieux l'éclair de ta splendeur ». Ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous devons de ce que nous devons faire pour que vienne en nous ce souffle qui a enveloppé les apôtres et pour qu'il nous enveloppe nous aussi et nous transforme en chrétiens accomplis, remplis de sagesse. C'est « Viens, Esprit Saint, afin que nous entrions véritablement dans l'intimité de la présence divine. » Et c'est cette intimité, par la communion dans l'Esprit, qui nous donne de vivre cette unité parfaite. Et alors là, eh bien, la parole s'accomplira et votre âme sera, notre âme sera comme une source d'eau vive dont le flot ne se tarira jamais. Toucher à cette dimension de l'esprit, c'est toucher à une force qui est au fond de nous et qui ne demande qu'à jaillir. Un peu à l'image de, vous voyez, comme si on grattait la terre. Et en se disant, ben, là il y a juste une tache d'humidité, mais dessous il doit y avoir quelque chose. Et en grattant, eh bien, petit à petit, c'est une source qui va se mettre à couler. Cette source, elle va couler, elle va inonder les déserts et une végétation luxuriante va pouvoir pousser. Cette source, elle est véritablement en nous, au cœur de nous, et elle ne demande qu'à jaillir. Toute la liturgie de la Pentecôte et tous les 24 dimanches qui vont suivre, eh bien, la liturgie va nous expliquer les différents aspects, les différents ressorts qu'il faut mettre en œuvre en nous et autour de nous pour que cette source jaillisse et qu'elle coule éternellement. Amen.